sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Nicolas Brousse.
Bonjour à tous, appel sur l'actualité sur RFI, aujourd'hui et demain sans Juan Gomez. On a une pensée pour lui ce matin, rassurez-vous, le patron revient dès lundi. En attendant, toute l'équipe est là, vous serez là comme chaque jour pour poser vos questions et commenter l'actualité. Dans une petite demi-heure, vous pourrez réagir sur la crise migratoire. Un chiffre nous a été communiqué cette semaine par les Nations Unies. 10 000 migrants qui tentaient de traverser la Méditerranée pour allier illégalement l'Europe sont morts depuis 2014. Rien que pour ce début d'année, on déplore déjà plus de 2 800 tués. Que faire pour que la Méditerranée ne soit plus un cimetière? Les accords passés entre l'Europe et les pays émetteurs et de transit vous semblent-ils pertinents? Vous connaissez quelqu'un ou vous souhaitez vous-même tenter la dangereuse traversée? Expliquez-nous ce qui pousse à prendre de tels risques. Vos réflexions et témoignages nous intéressent au standard plus 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Et vous pouvez bien sûr nous écrire sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Nous lirons ensemble quelques-unes de vos réactions, notamment par exemple d'ores et déjà celle d'Amad. J'ai déjà perdu beaucoup de frères en Méditerranée, mais moi j'ai aussi envie d'aller tenter ma chance. Je suis sûr que ça va continuer parce que la vie en Afrique est très difficile. Avec la mauvaise gouvernance du continent, les dirigeants au pouvoir le sont pour leurs intérêts et non pour l'intérêt des citoyens. L'Afrique va mal, je cite Ahmad, mais c'est un peu la tonalité générale pour l'instant sur notre page Facebook. Mais tout de suite, c'est l'heure de nos questions et nous allons accueillir tout de suite quelqu'un qui va nous parler de Karim Ouad. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Nicolas.
Vous êtes en direct de Kara au Togo. Alors, vous voulez revenir sur la probable prochaine libération de Karim Ouad, le fils de l'ancien président sénégalais.
Oui, effectivement. J'apprécie vos antennes que Karim Ouad, le fils de l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Ouad, pourrait être libéré par selon Macky Sall. J'aimerais savoir si quel est l'intérêt pour Macky Sall de libérer Karim Ouad et pourquoi ses complices ont été libérés.
Alors, deux questions que nous allons poser en direct à Dakar, à Guillaume Thibault, notre envoyé spécial permanent. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Alors, cette première question d'Emmanuel, quel est l'intérêt pour Macky Sall de libérer Karim Ouad? En fait, tout dépendra du mode de libération choisi par la présidence et ou la justice.
Tout à fait. Et cette grande question, Karim Ouad va-t-il revenir ou non dans le jeu politique, dans la bataille pour la présidentielle de 2019, puisque c'est lui et bien lui le candidat désigné du Parti démocratique sénégalais. S'il est libéré, on parle bien évidemment d'hypothèse. Alors au PDS, c'est l'amnistie qui est demandée. L'amnistie dans le droit sénégalais annule tout. Les faits d'enrichissement illicite seraient amnistiés, comme si rien n'avait été commis, comme si la justice n'avait jamais travaillé, dit un cadre du PDS. Bref, comme disent les Sénégalais, Karim Ouad serait blanc comme neige et pourrait donc se poser comme un outsider sérieux pour la prochaine présidentielle. Deux autres modes de libération possibles en cas de libération de Karim Ouad. La grâce du président de la République et le placement en liberté conditionnelle qui ne donne pas forcément les mêmes droits. En cas de grâce, par exemple, Karim Ouad resterait condamné pour les faits reprochés, condamnation qui pourrait ternir, voire bloquer son avenir politique. La question que tout le monde se pose, est-ce que Macky Sall souhaite que Karim Ouad soit candidat en 2019? Difficile de répondre. Est-ce qu'un deal secret existe pour qu'il ne soit pas candidat en 2019, c'est ce que se demande notamment la presse, la rue. Il faudra attendre pour avoir des réponses à ces questions. Une chose est claire, pour le moment, en annonçant cette possible libération de Karim Ouad d'ici la fin de l'année, Macky Sall a en tout cas apaisé les tensions politiques. Depuis 2012, date de l'élection de Macky Sall à la présidence, les relations avec l'opposition, en particulier avec le PDS, sont vraiment, vraiment mauvaises. Plusieurs membres du PDS, vous le savez, sont passés par la case prison pour avoir insulté le chef de l'État. Au PDS, Karim Ouad est présenté comme un prisonnier politique, des termes rejetés par Macky Sall, par la présidence. Et voilà, depuis l'ouverture du dialogue national le 28 mai dernier, l'atmosphère générale est plus calme. Macky Sall est à l'origine de cette démarche. C'est lui qui a appelé Abdoulaye Ouad pour son anniversaire. C'est lui qui a lancé ce dialogue national. Néanmoins, une chose, une partie des Sénégalais rejette l'idée d'un accord secret entre les deux grandes forces politiques du pays. Et Macky Sall le sait, il pourrait être critiqué s'il blanchit totalement Karim Ouad.
Alors Karim Ouad qui est toujours en prison, mais Emmanuel nous le rappelait, il y a des complices qui, eux, ont d'ores et déjà été libérés. Pourquoi ces libérations, Guillaume?
Alors tout cela s'est fait, on va dire, dans le cadre du dialogue national entamé à la fin du mois de mai, pour accepter de venir autour de la table. Le PDS a des conditions à son arrivée le samedi 28 à la présidence. Oumar Sarr, qui est secrétaire général du parti, hein, c'est lui qui est juste en dessous Abdoulaye Wade, il a évoqué justement la situation des militants et des cadres du parti qui sont emprisonnés. Le mardi suivant, 72 heures plus tard, les choses commençaient à bouger. Il faut être précis, ce sont officiellement des décisions judiciaires et non politiques. Il y a deux choses. D'un côté, Bibo Bourgi et Samba Dias, qui ont été condamnés en 2015 à 5 ans de prison. Ils ont été placés en liberté provisoire, autorisés en fait à aller se faire soigner à l'étranger, notamment en France. Il y a un autre dossier. C'est celui de Papa Mamadou Pouille. Il est présenté par la justice sénégalaise comme l'un des hommes de paille de Karim Wade. Il est cité, c'est le seul Sénégalais d'ailleurs, qui est cité dans les sulfureux Panama Papers. Lui a été placé en liberté conditionnelle, car d'après la justice, et c'est un droit ici au Sénégal, il a effectué la moitié de sa peine de prison. Son passeport est néanmoins chez le juge, ses déplacements sont donc limités. Et pour conclure, un autre détenu vient de faire la moitié de sa peine, c'est Karim Wade.
Emmanuel, on a répondu à vos questions.
D'accord, c'est ça.
Bon, merci à vous d'avoir appelé et grand merci à Guillaume Thibault qui était en direct de Dakar pour nous expliquer la situation. On reste au niveau présidentiel si l'on peut dire, mais cette fois, on va s'intéresser au Pérou où a eu lieu dimanche le second tour de la présidentielle. Bienvenue, vous êtes en ligne de Porto Novo au Bénin. Bonjour, on vous écoute.
Bonjour Nicolas Bruce et bienvenue à vous aussi et bien écoutez. Permettez-moi de vous rassurer aussi tout de suite qu'il n'y a pas de patron sans un apprenti. Et on aimerait bien se familiariser désormais avec vous. Revenez simplement, très fréquemment, à l'antenne avec vous et on est ensemble. Salut, moi et Marie Casadobé.
Bon voilà, là vous me faites chaud au cœur. Maintenant, on va aller tout de suite sur la vraie question. Bienvenue sur le Pérou, puisque nous avons un expert qui nous attend au téléphone. Quelles étaient vos questions? Vous me troublez là, ça y est, bienvenue.
Eh bien, vous savez, le deuxième tour de l'élection présidentielle au Pérou a eu lieu le dimanche dernier et le décompte des votes a tenu en haleine tout le peuple péruvien. Et bien, suite à cela, trois questions me sont venues à l'esprit. La première, comment expliquer la confiance que la population a accordée à Keiko Fujimori, malgré tout son problème familial? Et bien, la deuxième, si vous me le permettez, Nicolas, pourquoi certains bulletins de vote font l'objet de contestations? Eh bien, avant d'aller sur la troisième question, j'aimerais avoir la réponse à ces deux premières.
Alors, c'est vrai que c'est un scrutin qui est extrêmement serré, puisque vous l'avez dit, c'était dimanche. On n'a toujours pas encore le nom du gagnant ou de la gagnante. Pour nous éclairer, appel à un spécialiste de l'Amérique latine. Bonjour, Christophe Ventura.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Alors, l'affiche de ce second tour péruvien était haute en couleurs. D'un côté, celle que l'on surnomme la chinoise, même si elle a des origines japonaises, Keiko Fujimori. Et de l'autre, Pablo Kuczynski. Alors lui, il est surnommé le gringo. Pourquoi c'est aussi serré aujourd'hui encore, Christophe?
Ben, c'est vrai que c'est très serré, d'autant qu'encore aujourd'hui, l'écart semble se réduire, même si l'avantage reste à monsieur Kuczynski, hein, ce que ne remet pas en cause madame Fujimori d'ailleurs pour l'instant, mais l'écart ne cesse de se réduire puisqu'aujourd'hui il y aurait moins de 40 000 votes de différence entre les deux candidats, madame Fujimori obtenant 50,12% des voix et monsieur Kuczynski 49,87%. Donc on est vraiment dans un mouchoir de poche et qui va certainement créer les conditions d'une incertitude sur la manière dont monsieur Kuczynski va pouvoir former un gouvernement, en plus un gouvernement avec au Congrès une majorité cette fois-ci pleine et entière du camp de madame Fujimori. Donc on est dans une configuration qui aujourd'hui n'est pas vraiment claire à cette étape, même si pour l'instant personne ne conteste la victoire, même sur le fil de monsieur Kuczynski.
Mais est-ce que c'est parce que c'est encore extrêmement serré qu'il y a donc des contestations sur certains bulletins de vote et quel est le problème?
Bah écoutez, il y a des contestations. Alors bon, un peu comme c'est le cas en général lorsque vous avez des écarts si serrés entre des candidats.
C'est quelques milliers de voix en ce moment, à peine.
Oui, on est sur quelques milliers de voix. Je vous disais, on est certainement autour de 40 000 voix de différence. C'est rien du tout.
Sur un pays de 31 millions d'habitants, c'est presque rien. Oui, c'est une goutte.
Voilà, sur quasiment 18 millions de personnes qui ont voté, hein, grosso modo, un petit peu moins. On est sur 40 000 de différence. Donc évidemment, l'enjeu est énorme. Et c'est vrai que du coup, Encore une fois, M. Kuczynski aujourd'hui ne conteste pas, Mme Fujimori, pardon, ne conteste pas la victoire de M. Kuczynski, mais demande un recomptage des votes par, disons, c'est un premier pas, disons, qui est fait en cas de contestation avérée, etc. Alors là, on rentrera dans un autre scénario, mais pour l'instant, on n'y est pas encore.
Bon, alors Christophe Ventura, admettons que c'est bien, bel et bien, Pablo Kuczynski qui gagne. On peut quand même effectivement noter le parcours assez étonnant de Keiko Fujimori. Je dis assez étonnant parce que son père a lui-même été président du Pérou. Et pour parler très politiquement correct, il n'a pas forcément laissé un très bon souvenir.
Ah oui, non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le régime fujimoriste, d'ailleurs on l'appelle comme ça, on parle de fujimorisme pour parler d'un État quasiment qui était un précurseur dans ce qu'on appelle aujourd'hui le narco-État, hein, c'est-à-dire des régimes politiques et un État en pleine collusion avec des intérêts mafieux, en particulier du narco, qui en plus avait laissé un souvenir terrible en termes de répression au Pérou, en particulier de la gauche, qui d'ailleurs au passage, elle, sort vraiment affaiblie, hein, de ce scrutin, puisque ce scrutin, quoi qu'il arrive, déporte le Pérou vers la droite, hein, sur l'échiquier politique, et des options très clairement en lien avec une sorte d'ancrage néolibéral et plutôt en direction de Washington sur le plan géopolitique. Donc c'est ça qui va se passer quoi qu'il arrive. Donc le fujimorisme, c'est ça. Et Madame Keiko Fujimori, qui avait au premier tour réussi à donner une image peut-être moins liée à cette histoire-là, avec des engagements, des gages qu'elle avait donnés sur toute une série de thématiques de droits de l'homme, de droits des minorités, etc. Entre les deux tours, bah, s'est vu rattraper en quelque sorte par les affaires liées au secteur de son parti. Hein, on a eu des affaires qui sont remontées. Alors certaines d'entre elles, par ailleurs, qui ont été des affaires liées à des enquêtes diligentées par la DEA américaine antidrogue. Donc tout ça est très compliqué, ce qui, dans son camp, permet d'argumenter sur le fait que Washington a aidé M. Kuczynski dans cette campagne. Enfin, en tout cas, quoi qu'il arrive, on a des enquêtes qui tombent entre deux tours, qui sont préjudiciables à l'entourage de Mme Kuczynski en termes d'enquêtes sur des lavages, de blanchiment d'argent, d'enquêtes de drogue. Elle-même a repris des positions beaucoup plus dures et conservatrices sur toute une série de sujets, en particulier sociétaux, sur la question du mariage homosexuel, par exemple. Elle a voulu des gages aux églises les plus radicales, évangéliques. Bref, elle a fait un virage à droite qui, mêlé à ce retour des affaires, finalement lui a été préjudiciable entre ces deux tours, et ce qui a profité à M. Kuczynski, qui lui a adopté une ligne un peu plus modérée.
Voilà, donc on suivra évidemment le résultat définitif. On l'attend d'un jour à l'autre, peut-être même d'une heure à l'autre. Merci beaucoup Christophe Ventura, chercheur associé à l'IRIS, et merci, bienvenue, de nous avoir appelé pour poser ces questions. Nous allons nous intéresser à présent à la Suisse. Alors là, il n'y a pas eu du tout de suspense concernant le vote. La Suisse est un pays qui consulte régulièrement ses citoyens sur des propositions de loi. En version originale, on appelle ça des votations. Et dimanche dernier, les Suisses devaient se prononcer sur un projet unique au monde, la création d'un revenu minimum pour tous, que l'on travaille ou pas. Bonjour Lucien, vous nous appelez de Cotonou.
Bonjour Nicolas.
Et cette proposition de revenu de base pour tous vous a inspiré des questions, nous vous écoutons.
Les Suisses ont voté contre la création d'un revenu de base pour tous dimanche dernier. À ce sujet, j'aimerais savoir pourquoi les Suisses ont-ils voté contre, comment expliquer ce refus, et enfin, quelles seraient les conséquences économiques de la création de ce type de revenu pour un pays.
Alors, pour vous répondre, Sergio Rossi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de macroéconomie et d'économie monétaire à l'Université de Fribourg. Alors effectivement, dimanche dernier, les Suisses ont dit non au revenu minimum pour tous et ils ont dit non. Les trois quarts des votants qui ont participé à cette votation se sont prononcés contre. Hein. C'est un non ferme définitif.
Non, ce n'est pas définitif. Il faudra encore revenir sur la question. Par exemple, dans les années 20 et 30 du siècle passé, la Suisse avait voté plusieurs fois oui ou non, s'il fallait introduire une assurance vieillesse, et après une trentaine d'années, celle-ci a été introduite. Donc, visiblement, même pour le revenu de base, ce sera la même chose, il faudra revoter là-dessus, une fois que la situation socio-économique en Suisse sera dégradée et qu'il y aura de plus en plus de problèmes à résoudre. Mais pour répondre aux questions tout à l'heure, alors je dirais, les Suisses ont voté contre à raison de trois quarts à peu près, pour deux principes. Le premier, c'est que apparemment le système actuel des assurances sociales semble fonctionner, que ce soit pour les retraités ou pour les personnes qui sont au chômage, il y a encore des financements, semble-t-il, qui sont possibles par les assurances sociales, mais à terme, ce système ne sera plus viable parce qu'il y a un vieillissement démographique et aussi parce que la quatrième révolution industrielle va biffer des places de travail sans en créer autant en Suisse. Et le deuxième principe qui a été à la source, à l'origine du vote négatif, c'est que les initiants, tels et ceux qui avaient proposé ce revenu de base inconditionnel, n'avaient pas vraiment élaboré des propositions pour son financement. Il y a eu pas mal de discussions à ce sujet et l'électeur suisse, le citoyen suisse, lorsqu'il est devant l'incertitude quant au financement d'une proposition alternative, vote contre celle-ci en attendant que le financement soit précisé et que la question soit éclairée.
Parce qu'on parle quand même d'un salaire minimum, enfin d'un salaire si l'on peut dire, d'un revenu minimum équivalent à 2200 euros. Ça paraît énorme, même vu de France, ça paraît beaucoup.
Oui, vu de France, ça paraît énorme, vu d'Italie, encore davantage. Mais en Suisse, ce montant-là est juste au-dessus du seuil de pauvreté, à quelque part. Donc, l'idée d'un revenu de base, c'est de permettre à tout le monde d'arriver à la fin du mois avec un minimum vital et de mener une vie digne et de participer à la vie publique, mais sans faire beaucoup de luxe. Au contraire, ces personnes-là vont devoir encore travailler, donc s'investir dans une activité, former la descendance, etc. Parce que avec un revenu de base, on ne va pas pouvoir mener une vie très, très heureuse.
Merci Sergio Rossi, spécialiste de macroéconomie et d'économie monétaire à l'Université de Fribourg. Merci d'avoir répondu aux questions de Lucien qui nous appelait de Lomé. Nous sommes le jeudi 9 juin, ça ne vous a pas échappé. Nous sommes donc à J-1 de l'Euro de football. On est bientôt parti pour un mois de football, 24 pays engagés. Un événement qui se tient en France pour la troisième fois. Un rendez-vous que vous serez nombreux à ne pas manquer, à suivre sur RFI comme Désiré qui nous appelle de Lomé au Togo. Bonjour Désiré.
Bonjour Nicolas. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Alors Hugo Moissonnier du service des sports est en studio avec moi pour répondre à vos questions. On vous écoute.
Oui, demain commence à Paris l'Euro 2016. J'aimerais savoir quelles sont les équipes participantes et les équipes favorites.
Alors, puisqu'on est en famille, je ne vous cache pas que j'ai découvert le concept de tir cadré en jouant il y a quelques mois avec des collègues de RFI, donc je ne vais surtout pas vous répondre. Hugo, en revanche, ce que j'ai quand même réussi à noter, c'est qu'avant, il y avait 16 équipes en compétition et cette année, c'est 24. C'est quoi cette inflation?
C'est la principale innovation de cet Euro 2016. Alors, ça change pas mal de choses puisqu'avant, 16 équipes, c'était très resserré. Le niveau était très élevé. On jouait sa peau dès le premier match. Là, c'est un petit peu différent. 24 équipes, ça veut dire 16 qualifiés donc pour les huitièmes de finale. C'est une nouveauté dont les deux premiers de chaque groupe. Donc ça fait 12 équipes plus 4 meilleurs troisièmes. Alors donc ce qui signifie qu'il y a que seulement 8 équipes qui seront éliminées au premier tour. Ça va un petit peu tuer le suspense au premier tour et peut-être tuer un petit peu l'intérêt de la compétition. En revanche, ça a un avantage de passer à 24 équipes, c'est qu'on voit de nouvelles têtes, par exemple le Pays de Galles qui était jamais là, et le Pays de Galles a des bons joueurs, notamment Gareth Bale qui joue au Real Madrid. On voit également l'Islande, première participation, l'Irlande du Nord également première participation, que ça permet de voir de nouvelles têtes.
Alors est-ce que ces nouveaux pays qui pourraient être les petits poussés de la compétition peuvent créer la surprise, des surprises?
Alors ces pays-là, en l'occurrence, l'Irlande du Nord, je miserais pas trop dessus, mais bon, vous pourrez ressortir la bande si je me trompe, Nicolas. Peut-être le Pays de Galles, éventuellement avec Gareth Bale. Ce qui est sûr, c'est que on peut s'attendre effectivement à des surprises sur cet Euro 2016. Pour une simple raison, c'est que les traditionnels favoris, je pense à l'Espagne, l'Allemagne, la France, l'Italie, sont pas forcément au top de leur forme. Alors l'Allemagne reste quand même très impressionnante. L'Espagne et la France sont également très attendues. En revanche, l'Angleterre, l'Italie sont plutôt dans un trou générationnel, donc on peut imaginer que d'autres équipes, type par exemple la Croatie avec Rakitic et Modric, ou type la Suède avec Zlatan, ou le Portugal avec Cristiano Ronaldo, puissent tirer leur épingle du jeu dans cet Euro 2016.
Donc au final, c'est une compétition qui s'annonce assez ouverte.
Indécise, en tout cas peut-être un petit peu ennuyeuse, j'y reviens au premier tour.
Mais ennuyeuse, mais comme vous allez nous la faire vivre sur les antennes de RFI, ce sera forcément passionnant. Merci Hugo Moissonnier du service des sports. Une petite pause et le journal.
Priorité santé.